Voilà, prenez vos Bibles si vous les avez ce matin et ouvrez-les à Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Et comme vous le savez, donc ce matin, on termine cette mini-série qu'on a commencée il y a quelques semaines en arrière dans Marc 1. Alors bien sûr, on va continuer l'étude de Marc, mais cette mini-série dans le chapitre 1 que j'avais intitulée, que j'ai intitulée « Les sept traits marquants du ministère de Jésus ». Donc, les sept traits marquants du ministère de Jésus. Et ce matin, on va aborder le dernier trait. Le dernier trait, il avait compassion pour les sacrificateurs. Alors, je révise très vite, d'accord. Premièrement, le premier trait qu'on a vu, c'est que Jésus prêchait l'évangile. Deuxième trait, Jésus façonnait les disciples, tout ça dans Marc 1. Troisième trait, il parlait avec autorité. Quatrième trait, il dominait sur les démons. Cinquième trait, il guérissait les malades. Sixième trait, il se fortifiait par la prière. Et le septième trait que nous allons voir ce matin, il avait compassion pour les sacrificateurs. Alors, j'aimerais lire notre texte ce matin, chapitre 1 de Marc, à partir du verset 40. D'accord ? À partir du verset 40. Marc écrit ceci. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Alors vous dites, John, c'est quand même un petit peu étrange le titre que tu as choisi, qu'il avait compassion pour les sacrificateurs, sachant qu'aujourd'hui, c'est un miracle d'un lépreux guéri. Alors, vous allez dire, mais John, est-ce qu'il n'avait pas compassion plutôt sur le lépreux ? Bien sûr qu'il a eu compassion sur ce lépreux. Mais ce que vous allez voir, c'est que je pense que ce texte souligne encore plus le fait, enfin plus, on se comprend, le but du texte, c'est pour montrer que Jésus, je pense, avait vraiment compassion pour les sacrificateurs. Je vais vous le montrer, c'est très très intéressant. Alors juste une révision du contexte, on l'a vu les semaines précédentes, vous vous rappelez cette fameuse journée juste avant, à partir du verset 21, Jésus avait enseigné dans la synagogue le jour du sabbat à Capernaüm, juste au la côte nord de la mer de Galilée. Ensuite, il a chassé un démon d'un homme dans la synagogue. Il avait guéri la belle-mère de Pierre. Il avait ensuite passé la soirée jusqu'à tard dans la nuit à guérir tous les malades dans la ville de Capernaüm. Ça, on l'a vu aussi. Ensuite, il s'est levé entre 3h et 6h du matin pour aller prier dans un lieu secret. On a vu ça dimanche dernier. Et là, on part, on voit à partir du verset 39 qu'il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée en chassant et il chassa les démons. Donc là, il avait entamé son voyage dans la Galilée pour aller dans les synagogues et prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Alors nous savons, Matthieu 4, 24 nous dit que sa renommée se répandit dans toute la région déjà parce qu'il avait fait plein de miracles à Capernaüm. Et que là, soudainement, on voit aussi dans Matthieu 4, 25, qu'une grande foule le suivait. Et que là, soudainement, un événement étonnant arrive parmi cette foule. Un lépreux arrive et Jésus le guérit. Ça, c'est notre récit pour aujourd'hui. Et pour mieux nous aider à comprendre ce qui se passe ici et l'impact, j'ai divisé notre récit en 5 parties toutes simples pour nous guider dans notre réflexion. Numéro 1, la condition du lépreux. La condition du lépreux, au verset 40, il est dit tout simplement, un lépreux vint à lui. Un lépreux. Dans Luc 5, 12, passage parallèle, on apprend que l'homme était couvert de lèpre. Couvert de lèpre. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cet homme, et on va parler pas mal de la lèpre ce matin pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que nous ne savons rien d'autre sur lui. Nous ne connaissons pas son nom, ni son âge. Nous ne savons pas s'il avait une famille ou non. Nous ne savons pas à quel moment de sa vie il avait contracté la lèpre, ni comment. On ne sait même pas non plus quel était son métier. Mais ce que nous savons, c'est qu'il était couvert de lèpre. Wikipédia nous dit que la lèpre ou la maladie de Hansen, la maladie, c'est une maladie infectieuse chronique due à une bactérie. Et on l'appelle la maladie Hansen à cause du Norvégien qui a découvert cette maladie en 1873, disons, et qui lui a donné ce nom. Cette bactérie touche les nerfs périphériques, la peau, les muqueuses et provoque des infirmités sévères. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la lèpre est traitable par des antibiotiques. Mais à l'époque, les choses étaient vraiment différentes. Dans l'Antiquité, il faut savoir que la lèpre était une des maladies les plus horribles et terrifiantes que l'on pouvait attraper. OWG Masterman écrit ceci: « Aucune autre maladie réduit l'être humain à être et pour autant d'années qu'un débris délaissé. » La lèpre est appelée la lèpre car cette maladie provoque des sortes d'écailles sur le corps et en grec le mot « lépos » ou « lépis » veut dire « écaille ». Barclay nous décrit les étapes de la lèpre. Je cite, « La lèpre commence avec l'apparition de petites nodules qui se mettent à ulcérer. Ces ulcères développent des décharges infectes et fétides, les sourcils tombent, les yeux deviennent fixés, les cordes vocales deviennent ulcérées, la voix devient enrouée et rauque, la respiration devient sifflante, les mains et les pieds aussi deviennent ulcérés. Lentement, le lépreux devient une masse de tumeurs ulcérées qui termine souvent par une décrépitude mentale suivie du coma et finalement la mort. » Il continue. « La lèpre commence souvent avec une perte de sensation sur une partie du corps, car les troncs de nerfs sont affectés. Les muscles s'atrophient. Les tendons se mettent à se contracter. Les mains se courbent et deviennent comme des griffes. Puis suit l'ulcération des mains et des pieds, et puis progressivement les doigts. Ensuite les orteils tombent jusqu'au jour où un pied entier ou une main entière peut tomber. Bien que la durée de vie typique d'un lépreux à l'époque était environ de 9 ans, les lépreux pouvaient vivre jusqu'à 30 ans dans cet état misérable. Quelqu'un a dit que ce genre de personne meurt centimètre par centimètre. Le docteur Bolbrand nous décrit en plus le détail de la nature de cette maladie. Alors, ce n'est pas joli, mais moi, je voulais vraiment qu'on comprenne le problème du lépreux ici. Un des graves problèmes avec la maladie Hansen, nous dit Paul Brand, c'est le fait que cette forme de lèpre engourdit les extrémités des membres, c'est-à-dire les prive d'une grande partie de leur sensibilité. Ils ne sentent plus. En Afrique, une personne malade de Hansen's disease a étendu une fois son bras directement dans les charbons brûlants pour y retirer une pomme de terre qui était tombée. Rien dans sa main lui disait de ne pas le faire parce qu'il ne sentait rien. En Inde, des personnes tenaient une poêle toute la journée dans leurs mains pour travailler, une pelle toute la journée dans leurs mains pour travailler les champs, ne réalisaient pas que les clous dépassaient de la manche et avaient déchiré leurs mains, mais ils ne sentaient rien. Un docteur, un jour, a essayé d'ouvrir une porte, mais le cadenas était rouillé, il n'arrivait pas. Un patient maigre et mal nourri est venu lui offrir de l'aide. D'un coup, il a ouvert le cadenas. Le médecin était étonné de sa force. Puis, il aperçut une goutte de sang tomber par terre. La main du jeune homme était déchirée jusqu'aux os, sans même s'en rendre compte. Un autre homme est devenu aveugle, car chaque matin, il se lavait la figure avec de l'eau. La seule chose, c'est qu'il ne savait pas que l'eau avec laquelle il se lavait était bouillante, car ni ses mains, ni sa figure, ni son corps ressentaient la température de l'eau, et l'eau bouillante dans les yeux ont fait de lui un aveugle. Le ressenti qu'on a maintenant en entendant ça, c'est exactement ce qu'on devrait ressentir. La condition physique dans l'épreuve à l'époque était atroce. Mais il y avait une autre conséquence de la lèpre qu'une conséquence physique, il y avait les conséquences sociales. Joseph, historien juif, nous dit que le lépreux était traité comme s'il était en effet un homme mort. Une fois la lèpre était, qu'elle était diagnostiquée, le lépreux fut absolument, totalement et complètement banni de la société humaine. En fait, pour le bien du peuple d'Israël, Dieu a prescrit des règles strictes par rapport à la lèpre. La contagion à l'époque était telle qu'il fallait appliquer certaines règles hygiéniques par rapport à cette maladie. Alors allez avec moi quelques instants dans Lévitique 13, car Lévitique, troisième livre de la Bible, Lévitique 13 et 14 sont deux chapitres consacrés entièrement au problème de la lèpre. Lévitique 13 et 14 est comme un manuel médical sur la lèpre pour aider les prêtres, en fait, les sacrificateurs, parce que c'était eux qui étaient appelés à vérifier, à contrôler, à déterminer si une personne était lépreuse ou pas. C'est comme ça que c'était à l'époque. Dans Lévitique 13, regardez versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemble à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Et ensuite, il dit, maintenant, ce qu'il voit, alors ensuite il va donner toutes les règles, ce qu'il faut vérifier et voir pour voir s'il y a la lèpre ou pas. Et il y a deux chapitres de tests. Alors regardez, au chapitre 13, verset 2, le verset commence avec « lorsque ». Donc dans ce cas-là, verset 9, « lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur ». Verset 18, « lorsqu'un homme aura sur lui, etc. ». Verset 24, « lorsqu'un homme aura sur lui, etc. ». Verset 29, « lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie, etc. ». Vous voyez ? Et encore verset 38, « lorsque », et encore verset 40, « lorsque ». Donc, il donne ici des cas et des tests pour savoir si en effet la personne était lépreuse ou suspectée de lèpre. Alors, si la personne était suspectée de lèpre, verset 4 nous dit qu'elle devait être isolée pendant 7 jours. Si après 7 jours d'isolement, la lèpre avait progressé, alors la personne était isolée encore pendant 7 jours, verset 5. Si la lèpre n'avait pas progressé à ce point-là, alors l'homme était déclaré pur, verset 6. Si cependant la lèpre avait progressé, alors la personne fut prononcée impure. Verset 8. Lorsqu'il était évident tout de suite que la personne était lépreuse, etc., encore des cas, versets 9 et 11. Etc., etc. Alors que se passait-il lorsqu'une personne venait, était inspectée, et elle était maintenant confirmée lépreuse ? Alors là, c'est pas drôle. Chapitre 13, verset 45. Regardez. S'il est confirmé que tu avais contracté la lèpre, tu étais vraiment lépreux, voici ce que la Bible dit, verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera... j'aurais dû commencer au verset 43. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps... C'est un homme lépreux. Donc voilà, il est déclaré lépreux et il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'il a sa plaie. Maintenant, regardez verset 45. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Mes amis, le lépreux était littéralement coupé du monde. D'un jour à l'autre, un homme déclaré lépreux ne pouvait plus jamais toucher un autre être humain, sauf peut-être un autre lépreux. S'il était marié, plus jamais ne pouvait-il toucher sa femme, l'embrasser, la tenir dans ses bras. Jamais. Plus jamais ne pouvait-il prendre un de ses enfants dans ses bras, lui faire un câlin, l'aimer, enfin l'aimer oui, mais pas le porter sur ses genoux, ni jouer avec lui. Il ne pouvait plus jamais vivre dans sa propre maison, car il devait quitter pour être isolé des autres et hors du camp. Il était ainsi coupé de sa propre famille, de son village, de ses amis, de sa propre maison. Plus jamais pouvait-il dormir dans son propre lit, proche de son conjoint. Plus jamais ne porterait-il un vêtement non déchiré. Plus jamais ne travaillerait-il, car son emploi était terminé instantanément. Peu de personnes ne viendraient lui rendre visite, car sa maladie ferait peur à tout le monde, et il serait rejeté. Ses plus proches amis s'éloigneraient pour toujours de lui. Il deviendrait d'un jour à l'autre littéralement coupé du monde. Et mes amis, si vous voulez savoir ce que c'est, regardez le film Ben-Hur, si vous ne l'avez pas encore vu. Parce que là, on voit très bien la maman et la sœur de Ben-Hur qui ont la lèpre et se retrouvent dans une caverne isolée avec le reste du monde. Comprenez-vous maintenant pourquoi la lèpre était considérée une maladie, une des plus terrifiantes possibles à attraper ? C'était une maladie affreuse, incurable, sans aucune possibilité de guérison humaine. C'était une maladie qui condamnait une personne à être un mort vivant. Alors maintenant, on revient à Marc 1. Avec ça comme arrière-plan, c'est promis quelque... J'ai des frissons à y penser encore. Verset 40. Un lépreux vint à lui. Un lépreux vient voir Jésus. Et le texte parallèle nous dit qu'il était couvert de lèpre. Moi, j'étais sur Google, regarder des images de lépreux. J'allais vous en montrer, mais il y a vraiment des images horrible. Les membres, ah, c'est horrible. Plein de bulles et de cloques. Et cet homme vient voir Jésus. 2. La requête du lépreux. La requête du lépreux. Verset 40, un lépreux vint à lui. Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Matthieu 8, 2, texte parallèle, nous dit qu'il se prosterna devant lui. Luc 5, 12 nous dit qu'il tomba sur sa face. Alors nous, on peut comprendre pourquoi ce lépreux qui était censé rester coupé du monde est venu vers Jésus. Vous rappelez Luc 4, 40, hein, on l'avait vu la dernière fois, après le coucher du soleil, donc c'est quelques jours avant à Capernaüm, tous ceux qui avaient des maladies atteints, de diverses maladies, les lui amenèrent à Jésus et en posant ses mains à chacun d'eux, il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne les permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Il est dit, il imposa les mains aux malades, à chacun d'eux et les guérit. Comme on l'avait vu, Jésus avait déjà littéralement vidé Capernaüm de toute maladie. Ben écoutez, le bruit a couru comme du feu dans toute la région et les gens se sont dit, ben, écoute, s'il a guéri tout le monde à Capernaüm, moi je suis malade, j'y vais. Et ce lépreux est parti en courant à la recherche de Jésus, c'est évident. On aurait fait pareil. Alors, comment est-ce qu'il s'approche ? Premièrement, il s'approche de Jésus avec sans crainte. Il connaissait la réputation de Jésus pour savoir qu'il n'allait pas être systématiquement rejeté par lui comme il l'avait été par les autres. Il n'avait pas apparemment crié à Jésus depuis loin comme il aurait dû le faire. Non, il s'est approché de Jésus, alors on peut imaginer que la foule avait peur, elle s'est dégagée, il accède direct à Jésus. Ça, c'est quand même l'avantage, un avantage, peut-être le seul. 2. Il s'approche de Jésus avec respect. Il se prosterne, il tombe sur sa face. Là, il est enfin devant Jésus, celui dont il a entendu parler depuis tellement longtemps. Le terme « prosterner » veut dire peut-être simplement qu'il s'est agenouillé, visage à terre, mais le terme aussi est utilisé pour prier ou adorer. Donc, est-ce qu'il avait déjà une conception, comme quoi Jésus était vraiment le Fils de Dieu? Il devait penser que peut-être c'était le Messie. Donc, est-ce qu'il vient simplement s'adorer devant lui ou vraiment adorer cet homme, Jésus? Matthieu 8, 2 nous dit en plus qu'il l'appelle Seigneur. Moi, j'ai l'impression qu'il avait peut-être une idée que c'était vraiment peut-être le Seigneur. Bref, il vient à Jésus, se prosterne avec respect, troisièmement avec humilité. Ça, je trouve tellement beau ce qu'il dit, regardez, 1,40, il dit, un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, ça veut dire, il avait vraiment envie d'être guéri, mais il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais c'est incroyable. Quelle humilité. Deux choses ressortent. Premièrement, il dit, je sais que tu peux me guérir. Ça, c'est évident. C'est même pas la question. C'est ce que le lépreux dit à Jésus. Je sais donc, c'est pour ça que je pense, qu'il pense qu'il est peut-être le Seigneur. Je sais que tu es Seigneur, que tu es puissant, que tu as déjà guéri quantité d'autres et que tu peux sans aucun problème me guérir instantanément. Mais, il dit, si tu le veux. Je sais très bien que je ne suis pas digne d'une telle faveur de ta part, que tu as le choix de me guérir ou de ne pas me guérir. Et en fait, il dit, je préfère, Jésus, ta volonté que la mienne. Écoutez, ça, il faut s'arrêter quelques instants. Ce qui est formidable, c'est de constater que le lépreux est parfaitement d'accord et satisfait de rester lépreux si c'est la volonté de Jésus ici. Il dit, si tu le veux. Si tu veux que je reste lépreux, je reste lépreux. Mais s'il te plaît, si tu peux et si tu veux, fais-le. Quelle humilité! Bon, il sait qu'il le peut, c'est pas juste ce que je viens de dire. Il sait qu'il peut, maintenant est-ce qu'il veut? Moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du lépreux. Combien de personnes exigent de Dieu qu'il agisse en leur faveur? Jésus, tu dois me guérir. C'est ce que certains évangéliques disent ou c'est ce qu'ils enseignent. Seigneur, enlève mon épreuve, c'est mon dû. Ah bon? C'est mon dû de ne pas être dans l'épreuve. Moi, je vais vous dire ce qu'est notre dû. Vous savez ce que c'est notre dû? L'enfer. Et rien de moins, et rien de plus. L'enfer, c'est ce qu'on mérite de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qui est mieux que l'enfer est une grâce de Dieu. Est-ce que Dieu me doit santé, bonheur, richesse? Ah bon? Ben, c'est pas ce que l'épreuve pensait. Lui dit, si tu veux me guérir, tu peux, mais t'es pas obligé. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment merveilleux. Quelle humilité. Écoutez ces quelques versets intéressants. Moïse a été appelé par Dieu pour aller parler au Pharaon et sortir les enfants d'Israël. Il disait, mais écoute, Seigneur, tu fais un mauvais choix. Je parle mal. Vous vous rappelez? Moïse a dit, mais ma bouche, je ne suis pas un très bon parleur, orateur. Exode 4, 10, oh Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. L'Éternel lui dit, verset 11, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Dieu est totalement souverain dans ce que nous avons dans la vie, dans notre lot dans la vie. C'est lui, c'est ce que la Bible dit, c'est lui qui fait le sourd, qui fait le voyant, et qui fait l'aveugle, et qui fait le muet. Lévitique 14, 34 est un petit verset intéressant. Ça, j'ai découvert ce matin. Lorsque vous saurez entrer dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, c'est Dieu qui parle, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui qui appartiendra, etc., etc., etc. Donc on apprend que Dieu, parfois même, met la lèpre là où il veut la mettre. Est-ce que Dieu est souverain, même sur la maladie? Ben oui, apparemment. Écoutez, Lamentation 3, 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Ah ouais. Et je crois que le lépreux a compris un truc là. Dieu, Jésus, tu es souverain dans le lot de ma vie. Alors, est-ce que c'est un mal de prier pour être guéri? Oh ben non. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Verset 16. Priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Verset 14. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens pour qu'ils loignent de l'huile et qu'ils prient pour lui. Bien sûr que c'est un privilège de pouvoir demander à Dieu de nous guérir. Et il peut le faire, et parfois il le fait miraculeusement, mais ce n'est pas un dû. Et donc cet homme s'approche de Jésus avec foi, et il dit, je sais que tu peux me rendre pur. Trois, la guérison du lépreux. Verset 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. On voit trois attributs de Jésus ici, numéro un, il est rempli de compassion. Écoutez, c'est une chose étonnante ce qui se passe ici. Jésus fut ému de compassion, il étendit la main et le toucha. La loi mosaïque interdisait formellement le fait de toucher un lépreux, Lévitique 5, 2 à 3, parce qu'un lépreux était souillé, un lépreux était impur. Donc il y a une interdiction, Jésus le touche. Moi je me mets à la place du lépreux, j'essaye. Il arrive devant Jésus, les gens peut-être crient après cet homme, « Pars, t'es impur !» Il le critique. Et lui, il arrive devant Jésus, il se prosterne devant lui, il lui dit, « Écoute, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Il a la face par terre, il sait qu'il est indigne, il sait qu'il est devant Jésus. Et quelques secondes passent peut-être, et puis tout d'un coup, il ressent quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis le jour où il était devenu lépreux. Il sent le toucher d'une main d'une autre personne non lépreuse. Pensez-y. C'est ce qui languissait de pouvoir prendre quelqu'un dans ses bras, d'être touché par une personne. Et là, de manière inattendue, le lépreux, sans cette main qui le touche, est-ce qu'il lève la tête à ce moment-là, il voit Jésus toucher son épaule, peut-être sourire sur sa bouche. Moi, je pense que l'homme était en choc total. Vous savez, Jésus n'était pas obligé de le toucher. On sait très bien qu'il aurait pu le guérir avec une parole à distance, il l'avait déjà fait. Avec un geste, avec une pensée, avec une parole. Mais non, là il a touché cet homme. Quelle compassion! C'est intéressant, le mot compassion en fait veut dire colère. Il y a un grand débat parmi les théologiens sur ce que veut dire cette colère. Probablement le fait qu'il est en colère par rapport à la condition humaine et le ravage du péché dans la vie de cet homme. Voyez-vous, le fait qu'on est pécheur, eh bien on devient malade. Pourquoi est-ce que vous êtes malade des fois? Parce qu'on est pécheur et parce qu'on vit dans un monde déchu. Et il y a toutes sortes de maladies. Et là, en voyant ce lépreux, est-ce que Jésus est en colère? Parce que c'est le péché finalement qui provoque la maladie et la mort. Mais quelle compassion! Ça me rappelle Matthieu 9, 36, un verset qu'on utilise souvent. Quand on est avec des gens qui vont mal, qui sont en détresse, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Jésus a compassion pour cet homme. Deuxièmement, on voit qu'il est souverain, verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » C'est intéressant, hein? C'est la décision du Seigneur. Lui dit, je le veux. Dans ton cas, oui, je le veux. Moi, je pense que le cœur de ce lépreux, il a dû faire un bond, là. Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Il dit, oui, je le veux. Moi, je pose la question, qui est Jésus? En lisant les évangiles, vous devriez toujours poser la question, mais qui est Jésus? Est-il Seigneur? Est-il le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-il vraiment venu du Père? Est-il Dieu incarné? A-t-il reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre, comme il le dit dans Matthieu 28? Oui, Jésus dit, je le veux. Oui, je le veux. Luc 1, 37, Marie a dit, rien n'est impossible avec Dieu. Celui qui a créé la terre, comme ça, est-ce qu'il ne peut pas guérir un lépreux? Comme ça, bien sûr qu'il peut. Troisièmement, on voit que Jésus est tout puissant, verset 42. Aussitôt, alors il dit, je le veux, sois pur, et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt. Instantanément, parfaitement. Il y a 35 miracles mentionnés dans le Nouveau Testament que Jésus a fait. Il en a fait beaucoup plus, nous dit Jean, mais ça, c'est ceux qui sont écrits dans le Nouveau Testament. Dans deux cas seulement, il a guéri en étapes, avec quelques secondes dans ces deux étapes. Dans 33 miracles, c'était instantanément, parfaitement, visiblement, publiquement. Vous savez, quand Jésus guérissait, il guérissait vraiment. À la vitesse d'un clin d'œil. Il y a le lépreux devant toi, tac, guéri. Non mais attendez voir, il est lépreux, il est devant vous, guéri. En un claquement des doigts, le lépreux déformé, ridé, flétri, ulcéré, une peau pleine d'écailles, les cheveux et la peau de la couleur blanc pâle, les doigts et les orteils courbés, griffés, sinon tombés, les mains déformées, les pieds déformés ou sans extrémité, les membres saignants, la voix rugueuse, les yeux malades, aussitôt guéri. Tout guéri. Il retrouve une posture droite, plus une seule ride sur le visage ni sur le corps. Il n'avait plus un seul ursère ni d'écaille. Il a trouvé une peau parfaitement lisse. Ses cheveux ont retrouvé leur couleur, sans doute noire d'origine, qui luisait dans le soleil. Ses orteils et ses doigts courbés ont retrouvé leur fonction normale. S'il avait des orteils et des doigts tombés, manquants, Jésus lui a créé de nouveaux doigts et de nouveaux orteils pour cet homme, de la même manière qu'il a créé une nouvelle oreille pour Malchus dans le jardin de Gethsémané. Sa voix est devenue normale. Ses yeux ont retrouvé l'éclat et la clarté d'une personne saine immédiatement. Et on apprend que cet homme avait été couvert de lèpre. C'est dingue. C'est vrai, on se dit, ah, si seulement j'avais pu voir ça. Honnêtement, hein. C'est... Quatre. L'ordre aux lépreux. 43. Aussitôt la lèpre le quitta, verset 42, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Et il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Moi, j'ai souligné cette phrase dans ma Bible. Afin que cela leur serve de témoignage. Et cet ordre, à première vue, paraît un peu étrange et perplexe. Il y a un changement radical dans le ton de Jésus, de pitié. Il vient de guérir cet homme, et maintenant de sévérité grave. Pourquoi? Il dit, je vais vous répondre maintenant. Il dit quoi cet homme? Il dit, va au temple, vous allez voir un sacrificateur, montre-toi au sacrificateur, et puis présente une offrande. Jésus donne cet ordre basé sur Lévitique 14, on l'a vu il y a quelques instants en arrière. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, en faisant ça, déjà affirme à 100% la loi. Alors, Lévitique 14 nous donne les étapes de la prescription. Alors, on ne va pas regarder en détail, c'est trop long. Les versets 1 à 20, c'est un lépreux guéri, disons normal, parce qu'à partir du verset 21 de Lévitique 14, il est dit, s'il est pauvre, voici ce qu'il doit faire. Donc, il y a certains lépreux qui sont pauvres, lorsqu'ils deviennent lépreux, ils restent pauvres. D'autres, peut-être qu'ils étaient des familles riches. Ils deviennent lépreux, ils sont écartés, mais ils ont des moyens pour pouvoir ensuite faire des offrandes plus conséquentes. Donc, il y avait ces deux catégories par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Je vous résume Lévitique 14. Le lépreux devait se présenter devant les sacrificateurs qui devaient l'examiner, les versets 1 et 2. Si la guérison était confirmée, alors deux oiseaux devaient être pris et l'un d'entre eux devait être égorgé sur un vase de terre et sur de l'eau vive, verset 3. Puis l'oiseau vivant, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope devait tout être trempé dans le sang de l'oiseau égorgé. Puis le lépreux guéri devait être aspergé 7 fois par le sang. Le lépreux devait alors être déclaré pur par les sacrificateurs. Puis le lépreux guéri devait laver ses vêtements, se raser tout le corps, prendre un bain, verset 8. Il pouvait alors réintégrer la société juive, verset 9, afin que, avec quelques restrictions temporaires. Plus tard, il devait encore offrir un sacrifice de culpabilité, verset 12. Verset 20, ensuite, je le lis, il égorgera l'Holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande, et il fera pour cet homme l'expiation. Écoutez bien, et il sera pur. C'est le médecin qui dit, guéri, confirmé, tampon, machin, plus besoin de la pharmacie. Guéri. Alors, pourquoi est-ce que Jésus lui dit de faire cela? Jésus le renvoyait sur le champ, il a des sévères recommandations, il lui dit, garde-toi, ne rien dire à personne. Mais va te montrer au sacrificateur. Fonce vers le sacrificateur, ne parle à personne et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Mais vous, Jésus avait un but très clair ici. Il veut que la guérison de cet homme serve comme signe messianique indéniable auprès des sacrificateurs. Écoutez ce que je vais dire maintenant, c'est super intéressant. D'accord ? Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il n'y a que 2 lépreux qui sont guéris, que nous savons. Myriam, vous vous rappelez, la sœur de Moïse, dans Nombre 12-10, et Naaman, le général syrien, dans 2 Rois 5-1. Il n'y en a que 2, qu'on sache. De ce fait, ce lépreux dans Marc 1, tenez-vous bien, est le premier lépreux à être guéri miraculeusement dans l'histoire d'Israël depuis 1400 ans. Jean-Baptiste, quand il était en prison, il a eu quelques doutes par rapport à Jésus, vous vous rappelez ? Et à un moment donné, dans Matthieu 11, il dit, mais es-tu, donc il demande, est-ce que ce Jésus dont on en parle tant parler est celui qu'on attend ou est-ce qu'on devrait attendre un autre? Est-ce qu'il est le Messie vraiment? Voilà ce que Jean-Baptiste demande. Jésus répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce n'est pas anodin ce qui se passe ici, mes amis. Le fait que Jésus demande aux lépreux d'aller se présenter au sacrificateur afin qu'il vérifie la guérison est un moyen ingénieux de la part de Jésus de mettre les leaders juifs devant le fait qu'une nouvelle ère vient de commencer. Le fait qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth qui guérit miraculeusement, pas une ou deux personnes, des villes entières. Et même ici, un lépreux. Vous rappelez Nicodème dans Jean 3 ? Mais un des hommes entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint à lui auprès de Jésus la nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème s'est dit, là, il y a un truc. C'est évident qu'il y a un truc là. Tu dois être le Messie. Donc, ils disent, va au temple, montre-toi. Et il va dire, alors, lépreux, il arrive, et, écoutez, j'étais guéri. J'étais lépreux hier. Puis aujourd'hui, je suis totalement guéri, miraculeusement. Ah bon ? Putain, ça fait 1400 ans que ça n'était pas arrivé en Israël. Non, mais c'est vraiment vrai. Alors, ils vont faire quoi ? Ils vont déployer tout un groupe de personnes pour aller vérifier. Ou bien ils le prennent fou. Mais je pense qu'ils ont déjà entendu les rumeurs comme quoi il y a quelqu'un là-haut en Galilée qui fait des tas de miracles et qui est en train de vider des villes de maladies. Donc, ils déploient pour vérifier. Et là, ben, ils voient témoignage après témoignage après témoignage après témoignage. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. On le connaissait, j'étais sa femme, j'étais ses enfants. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a vraiment été guéri. Et donc, il le déclare pur, selon la loi, Lévitique 14, et il conclut, « Ah ben, Jésus est le Messie !» Ça, c'était l'idée. Les leaders seraient forcés alors d'admettre que le Messie était vraiment là. Alors, il était important que ce lépreux arrive au temple avant que les nouvelles de sa guérison ne le précèdent. Pourquoi ? Parce que si les sacrificateurs qui avaient appris sa guérison avant qu'il se présente, alors il est probable qu'ils aient refusé de le recevoir. Pourquoi ? Parce que le vent tournait déjà contre Jésus. Ça, on le sait tout au début. Dans Matthieu 3, même lorsque Jean-Baptiste prêche dans le désert de Judée, 3:7, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? » Donc déjà, ils sont pointés du doigt comme étant des hypocrites religieux. Dans Matthieu 5, 20, Jésus dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Lui aussi, il montre que les pharisiens sont des hypocrites. Et on sait que dans le chapitre 9 de Matthieu, déjà, c'est dans la même zone de temps, chronologiquement, Matthieu 9, 34, mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Donc déjà, certains des scribes et des religieux concluaient, mais on vous dit que c'est le Messie, mais ce n'est pas le Messie, c'est par Satan qui fait ces choses. Moi, je pense ici, Jésus, écoutez, Jésus a à cœur les scribes et les sacrificateurs. Il les a à cœur. Il sait qu'ils sont dans l'erreur. Il sait qu'ils ne comprennent pas la signification messianique de sa venue. Et donc là, il se dit, voilà, ça c'est une preuve irréfutable. Je guéris le lépreux, 1400 ans qu'il n'y a pas eu un lépreux guéri, on applique Lévitique 13 à 14 à la lettre et ils seront obligés de conclure que la source est Jésus et qu'il est le Messie. La désobéissance du lépreux. Marc 1, 45. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. La triste réalité de cette histoire, c'est que le lépreux a désobéi à Jésus. Il a fait exactement le contraire. Écoutez, honnêtement et humainement, on le comprend, hein ? T'as voir, ça fait 12 ans que tu es séparé de ta femme, tes enfants. Tu vas faire un voyage à Jérusalem ou bien tu vas aller voir ta famille ? On pourrait comprendre humainement qu'il va aller voir sa famille. Ben, c'est exactement ce qu'il fait. Il va crier à tout le monde. Je suis guéri, regardez. Le problème, c'est que ça crée un gros problème pour Jésus, parce que le témoignage du lépreux guéri a provoqué une précipitation et une bousculade par les foules pour voir ce faiseur de miracles et de guérisons. Tout le monde voit aller voir Jésus comme il voit aller voir un numéro de cirque. Au point où, nous dit le texte, il ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville sans provoquer un rassemblement tumultueux par des foules curieuses. En fait, le vrai problème, regardez ce que Jésus voulait faire. Regardez Marc 1 et le verset 39. Il est dit « Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassait les démons. » Voyez-vous, Jésus avait un message. Jésus voulait annoncer l'évangile. Il pouvait aller dans les synagogues en tant qu'enseignant, avoir la parole et annoncer la venue, sa venue comme étant la venue du Messie. Et il voulait aller à ces synagogues pour que les gens, Bible en main, peuvent comprendre « Ah ben ouais, voilà le Messie !» Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il y ait toutes ces foules. Et malheureusement, son ministère synagoguien galiléen a été brutalement arrêté par la désobéissance de ce lépreux. Et le verset 45, regardez, dit « Et à la fin, il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. » Ça lui a quelque chose à voir. Des gens venaient de partout. Ah ouais, il y a un lépreux et tous les autres qui criaient, écoutez, j'étais guéri. Il m'a guéri en un instant. J'étais complètement et totalement guéri. Alors les plans de Jésus ont été frustrés par cet homme. Alors je conclue. Et j'applique. Quelles conclusions tirer de ce texte? Quelques-unes. Numéro 1. Ce miracle, mes amis, affirme incontestablement la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment qui il a prétendu être, le Messie, Dieu incarné, le Fils de Dieu. J'espère que vous allez revenir dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, on va voir un autre miracle. Celui du paralytique, hein, qui est descendu. On ouvre le toit, on le descend et Jésus le guérit. Mais ce miracle, et peut-être pour moi c'est un des miracles les plus importants, parce que ce miracle va nous prouver que Jésus peut pardonner les péchés. Moi, j'espère que vous allez pouvoir venir. Il est vraiment important. Jésus est venu pour annoncer qu'il peut pardonner les péchés. Ce miracle, et on va en voir beaucoup, nous montre que Jésus est vraiment de Dieu. Deux. Je pense que ce miracle nous apprend la juste attitude à avoir dans la prière. C'est le lépreux qui nous l'apprend. Il est venu avec un ton suppliant. Mais son attitude était, si tu le veux, tu peux. Avec une humilité. Seigneur, voilà mes requêtes. Et la Bible nous dit, amène toutes tes requêtes à Dieu, amène-les. Seigneur, j'aimerais être guéri, j'aimerais ceci, je suis au chômage, j'ai des problèmes. Beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes. On est amené à les apporter à Dieu dans la prière. Et de lui dire, je sais que tu peux changer ma situation comme ça. Le lépreux me le prouve. Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Voyez-vous, est-ce que je veux ma volonté, est-ce que je veux sa volonté? Moi, je veux que lui soit glorifié. Et s'il ne me guérit pas, s'il ne change pas mon lot dans la vie, ça veut dire qu'il veut que je le glorifie dans mon épreuve. Comme Corrie ten Boom, dont on a entendu parler ce matin. Dieu a jugé bon qu'elle soit dans un camp de concentration. Et là, elle a annoncé l'évangile. Dans la misère, si vous n'avez pas vu le film ou lu le livre, je vous le conseille. Dieu, dans sa grâce, lui a permis de sortir, mais pas sa sœur. Sa sœur est décédée, si je ne me trompe pas, si je me rappelle, dans le camp, mais pas elle. On demande à Dieu, mais on ne fait pas des demandes de Dieu. Très différent. Trois. Ce texte nous montre combien, et je pense que c'est peut-être le but fondamental du texte, combien Jésus avait un fardeau sur son cœur pour les leaders religieux, ceux qui étaient censés enseigner au peuple la vérité. Jésus aimait les sacrificateurs, il aimait les scribes, il aimait les pharisiens. Il voulait qu'ils soient eux-mêmes touchés par sa grâce et qu'ils le reconnaissent comme Messie. Mais malheureusement, cela ne s'est jamais produit. Bon, pour quelques-uns, oui. Nicodème, c'est un très bon exemple. Alors voilà, moi, la question que je me pose, John, est-ce que tu as le cœur, pas simplement pour les leaders religieux, peut-être dans cette ville ou dans ce pays qui ne connaissent pas le Seigneur, mais pour tous les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, est-ce que je suis vraiment zélé pour ça? Ou est-ce que je suis tellement pris par mes occupations et je viens là le dimanche, trop bien, c'est super, j'ai peut-être un groupe de maison, une réunion de prière, ouah, super, mais au-delà de ça, est-ce qu'on a le cœur pour ceux qui ne connaissent pas Christ? Vraiment, moi j'espère, moi je demande à Dieu qu'il brise mon cœur de plus en plus pour les non-chrétiens et que je trouve des moyens pour passer du temps avec eux, pour que je puisse leur parler, si Dieu me donne l'occasion, de Christ. 4, nous voyons l'importance d'obéir aux ordres du Seigneur, même si ces ordres paraissent petits et insignifiants. On voit que la désobéissance, même si elle est petite, peut avoir des conséquences drastiques. Voilà, de nouveau, je pense, nous devrions demander au Seigneur, « Seigneur, écoute, quand je fais mon culte personnel, hein, des fois c'est comme ça, fais !» Ça nous arrive à tous, moi le premier. « Seigneur, aide-moi à le ralentir. Seigneur, moi qui connais Christ, moi qui ai été régénéré par toi, moi qui ai été pardonné par toi, moi qui aime la loi de Dieu, Seigneur, aide-moi à t'obéir. Y a-t-il quelque chose dans ma vie où je fais semblant d'obéir? Y a-t-il des domaines que je n'ai pas encore soumis totalement à la Seigneurie de Jésus-Christ? Seigneur, aligne ma volonté à la tienne, s'il te plaît. 5, là je le dis avec hésitation, mais je le dis quand même, parce que certains veulent voir ici, dans la guérison du lépreux, une illustration puissante du problème du péché et du salut de l'homme. Je ne pense pas que c'est le but du texte, du tout, hein. Et si vous voulez comprendre comment comprendre ce qu'est un but du texte, il faut venir mercredi au cours de théologie. Ce n'est pas le but du texte que je vais dire maintenant, mais c'est une illustration. On peut l'utiliser comme illustration, et la voici. En Israël, la lèpre était parfois utilisée comme une image du péché de son effet. Pourquoi? Parce que la lèpre nous attache, nous colle à la peau, bien sûr. Elle est incurable. Et elle condamnait l'homme à être coupé pour toujours du monde. Et bien sûr, la lèpre, sans intervention miraculeuse de la part de Dieu, ne pouvait rien, on ne pouvait pas s'en débarrasser. Donc, quel est le parallèle qu'on peut faire? Je pense que vous l'avez compris. La lèpre, c'est comme le péché. Nous avons attrapé une maladie qui s'appelle le péché. Et on ne peut pas s'en débarrasser. Vous pouvez vous frotter tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire toutes les bonnes œuvres que vous voulez. Vous êtes pécheur et moi aussi. Parce qu'on ne mesure pas aux autres hommes, on se mesure à Dieu qui est parfaitement saint. Et nous, nous sommes parfaitement pécheurs, nous sommes parfaitement lépreux spirituels. C'est ce qu'on pourrait dire. Et donc, il n'y a qu'une manière d'être guéri de son péché. Dieu doit intervenir. Dieu doit en un instant l'enlever par un miracle. Et ça, c'est quelque chose qu'il offre à toute personne. Le pardon immédiat, total, de notre péché, à cause de son œuvre, sa mort et sa résurrection sur la croix. Dimanche dernier, on a eu le privilège d'avoir chez nous des amis de l'Église, Paul, Anne et Lucas, que vous connaissez peut-être. Donc on a mangé avec eux, c'est super sympa. Puis après, on est allé se promener. On habite en France voisine. Un truc fou est arrivé. On arrive à un croisement, Archamps, hein, où j'habite, et on entend les cris, une dame qui crie dans une maison en construction. Je me suis dit, ah, c'est bizarre, alors on a tous dit, alors moi j'ai pensé, ouais, c'est les enfants qui jouent. Mais elle a dit non, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en sérieuse difficulté. Puis bon, on ne savait pas trop quoi faire, donc on a continué de marcher, puis les cris continuaient. Puis il y avait un homme de l'autre côté de la rue en tracteur. Je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir, au cas où. Alors je traverse la route et je regarde, et là, donc il y a la maison en construction, puis il y a une sorte de pente de boue, il y a une dame dans la boue. Je dis oui, bonjour. Il dit ouais, bonjour, écoutez, je suis coincé. Je dis mais vous êtes coincé. Non, non, je suis coincé. Je dis vous blaguez, parce que c'est beau et tout, enfin plus ou moins beau, pas vraiment, pas comme aujourd'hui. Mais je dis vous blaguez. Non, je ne blague pas, je suis coincé dans la boue. Je dis mais vous êtes vraiment coincé. Il a dit écoutez, ça fait une heure, je ne peux plus bouger. Et elle n'était pas visible de la route, c'est ça qui est intéressant. Alors tout d'un coup, Paul, Lucas, moi, on descend dans la boue. Et en effet, cette dame, elle a boue jusqu'au genou, totalement coincée. Elle ne pouvait plus sortir. Alors, on fait une chaîne, les trois, un, deux, trois, pour la tirer. On commence à tirer. Je crois qu'on a dépaté son bras. Elle ne bouge pas, impossible. Vraiment, elle était totalement comme les sables mouvants. Alors, on ne sait pas quoi faire. Alors, je monte, je connais la personne sur le tracteur. J'ai dit, écoutez, venez aider. Alors, lui, il vient. Maintenant, on est quatre. On n'arrive pas à la sortir, à quatre personnes. Il remonte, il va chercher une pelle, il revient, et là, il commence à... Je le connais parce qu'il travaille pour la mairie d'Archamps. Il est en train d'enlever la boue. Il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il n'avait jamais vu de la boue si pâteuse et si lourde. Elle était totalement coincée. Il a dû enlever, et finalement, avec beaucoup d'efforts, on a pu sortir cette dame de la boue. Elle avait des jambes comme ça, et de la boue comme ça, tout autour de ses jambes. Elle est sortie un petit peu comme un robot. Hein. Et je me suis dit, quelle illustration de nous. Mes amis, nous sommes tous engouffrés et coincés dans la boue du péché. Il n'y a qu'une manière de s'en sortir. Il faut que Dieu vienne et nous sorte par son Fils Jésus-Christ. Seul, tu n'y arriveras pas. On s'incline. Seigneur, merci de tout cœur ce matin pour cette merveilleuse histoire, récit de ce lépreux guéri, Seigneur. Et nous voulons te bénir pour ce que tu as fait dans sa vie. Et Seigneur, nous te remercions spirituellement pour ce que tu as fait dans nos vies. Et Seigneur, si quelqu'un ce matin ici ne connaît pas le pardon du péché, si elle est coincée dans la boue, Seigneur, moi je te prie qu'elle crie et qu'elle appelle à Christ. Parce que lui te sortira. Seigneur, merci, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.